Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale proposé par les radios associatives non commerciales de l'ex-région Languedoc-Roussillon, nouvellement Occitanie. Au sommaire de ce carnet de région, la 32e campagne des Restos du Cœur qui vient de débuter. Nous irons dans l'Hérault avec Michel Landon, le président des Restos du Cœur, au micro de RCF Maglone-Hérault. Et Radio Aviva nous donnera également des précisions sur les points de distribution à Montpellier. Dans le Gard, l'ancienne cité minière de la Grande Combe rendra hommage cette année aux nombreux réfugiés espagnols républicains lors de la nouvelle édition de Charbon Ardent, un sujet d'Yves de Fagot de Radio Grille Ouverte. Enfin, ce vendredi débute la 20e édition du Salon des artisans créateurs à l'Odève. Alain Mendez de Radio L'Odève nous en dira plus.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La 32e campagne des Restos du Cœur vient de débuter. Il faut savoir que depuis sa création en 1985, l'association de Coluche a distribué plus de 2 milliards de repas. Mais l'action des restos va plus loin que la distribution alimentaire. Michel Landon est président des Restos du Cœur pour l'Hérault. Il nous parle des objectifs de cette campagne au micro d'Alice Berthias de RCF Maglone-Hérault.
Les objectifs de cette campagne, comme chaque année, c'est d'essayer de recevoir les gens qui ont besoin de nous. Et à travers l'aide alimentaire, de pouvoir leur apporter toute l'aide à la personne nécessaire derrière pour les aider à sortir de cette exclusion sociale et économique. L'aide alimentaire, c'est effectivement la façade la plus connue des restos. D'ailleurs, on s'appelle resto, donc effectivement, le nom veut dire quelque chose. Mais l'aide alimentaire n'est qu'un moyen de rencontrer les gens et une fois qu'on a pu établir un climat de confiance, de voir comment on peut les aider par tout moyen à sortir de cette exclusion.
Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide.
La demande, il y a toujours effectivement un public nombreux et de plus en plus varié. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit des gens qu'on ne voyait pas forcément beaucoup. On voit effectivement plus de personnes âgées avec des minimums vieillesse qui ne leur permettent pas de suivre. Des gens qui, même avec un salaire, n'arrivent pas forcément à être entièrement autonomes. Des étudiants qui aussi ont des problèmes de budget importants. Puis, et bien entendu, aussi des personnes en asile politique. L'année dernière, on a connu une légère baisse du nombre de personnes. Ce qu'on a connu, c'est une baisse de la fréquentation, mais un quasi-doublement des personnes qui étaient en très très forte précarité.
Alors si on peut juste donner un petit point pratique pour nos auditeurs qui voudraient aider les Restos du Cœur, quelle démarche il faut qu'ils fassent ?
Pour aider les Restos du Cœur, ben d'abord ils peuvent toujours faire des dons aux Restos du Cœur, ça c'est une démarche qui est bien connue. Ensuite, on a une collecte nationale qui a lieu au mois de mars, et là c'est vrai qu'on sollicite les gens très fortement, de façon à nous aider. Et puis, ils peuvent nous aider également en étant bénévoles. On recherche toujours des bénévoles, notamment à l'entrepôt. On cherche beaucoup de personnes pour préparer les commandes, livrer les commandes. Et là, on est en manque de personnes. Donc, ça aussi, c'est un moyen de nous aider.
Et au niveau de la campagne là, qui débute aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous allez mener pendant cette campagne ?
Comme tous les ans, c'est l'accueil inconditionnel, et l'aide à la personne qui sont prioritaires. Et puis, l'accent des restos aussi, ça va être de faire pression sur les pouvoirs publics pour la lutte contre le gaspillage et l'application de la loi Parot de plus en plus correctement. Et puis, faire pression sur le gouvernement pour que, au niveau de l'Europe, la politique européenne en faveur des personnes les plus démunies soit poursuivie. Parce que vous savez qu'en 2020, ça s'arrête. Et que ça va commencer à se renégocier dès maintenant.
Et justement, par rapport à la loi sur le gaspillage alimentaire dont vous avez parlé à l'instant, oui. On en est où aujourd'hui de son application ? Est-ce qu'il y a des résultats concrets ?
Tous les décrets sont pas sortis encore. Mais il y a une lutte importante entre les grandes surfaces et les associations pour savoir qui sera responsable du tri des produits et autres. Et là, c'est vrai que on a encore une bagarre assez forte et une pression assez forte de la part des grandes surfaces. Et donc, il y a encore du travail à faire.
C'est-à-dire que les grandes surfaces, elles sont pas d'accord pour vous donner les invendus, c'est ça ?
C'est pas qu'elles soient pas d'accord pour nous les donner, mais c'est qu'elles sont, elles disent, écoutez, quand vous prenez tout, hein, et puis vous faites le tri. Et on leur dit, c'est non, c'est pas à nous de faire le tri, par exemple.
J'ai une dernière question, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais en pleine campagne présidentielle, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux candidats ?
C'est de pas oublier justement que toutes les associations, par le biais de leurs bénévoles, participent largement à une activité de soutien des personnes démunies, qu'elles ne les oublient pas, d'une part, qu'elles n'oublient pas le travail de bénévoles, parce que c'est important, c'est une énorme force. Et troisième point, qu'ils aient conscience qu'il va falloir renégocier dès maintenant avec l'Europe, le FEAD, et qu'ils attaquent ça tout de suite.
Michel Hondon, président des Restos du Cœur pour l'Hérault. Et à Montpellier, Radio Aviva nous rappelle qu'il y a 12 points de distribution, dont 3 restos bébés du cœur et un camion du cœur chargé de la distribution alimentaire aux gens dans la rue. En 2015-2016, ce sont 132,5 millions de repas qui ont été distribués à plus de 900 000 personnes, et ce grâce aux 71 000 bénévoles de l'association. Pour accéder aux repas à consommer sur place ou à emporter sous forme de panier, il faut s'inscrire et justifier de ses ressources et de ses charges. Toutefois, l'accès aux camions itinérants qui vont à la rencontre des habitants dans certaines villes et campagnes reste libre. L'ancienne cité minière de la Grande Combe rendra hommage cette année aux nombreux réfugiés espagnols républicains lors de la nouvelle édition de Charbon Ardent. Cette 11e édition d'une manifestation populaire et festive qui honore la mémoire de la mine veut lier l'histoire avec le présent par l'entremise du spectacle Passionaria qui sera présenté sur le site d'un ancien puits de mine, le puits Ricard, le samedi 3 décembre. Cette création sera le point d'orgue d'une semaine entièrement consacrée aux mots et aux chants de la guerre d'Espagne, comme l'explique au micro de RGO le maire de la Grande Combe, Patrick Malavier.
C'est un hommage aux républicains espagnols, aux guerrieros espagnols. Alors ça parle beaucoup ici en pays grand combien, puisque en son temps nous avons accueilli de nombreux réfugiés espagnols. Il y a toute une partie de la population de la ville qui est d'origine espagnole. Et donc ce spectacle va permettre de revisiter l'histoire, de montrer l'engagement important de ces Espagnols qui se sont d'abord battus en Espagne et puis ensuite qui ont rejoint les rangs de la résistance ici en France.
Quel lien feriez-vous avec aujourd'hui ?
Ben, l'histoire, on dit qu'elle ne se répète pas, mais elle bégaye. Quand on entend aujourd'hui un certain nombre de remarques qui sont faites sur les réfugiés, sur les migrants, ça fait quand même froid dans le dos. Et lorsqu'on reprend les archives, qu'on regarde comment on a traité les Espagnols, notamment quand ils sont rentrés d'Espagne, d'abord dans les camps de concentration, ensuite on les appelait les indésirables. Donc il y a un certain parallèle qu'on peut faire avec la situation d'aujourd'hui.
C'est avec la situation d'aujourd'hui que vous avez choisi cette thématique ou il y a une autre raison plus précise relative à l'histoire de la Grande Combe ?
C'est l'anniversaire, les 80 ans de la guerre d'Espagne. Et donc on a souhaité, en lien avec les associations, avec le monde hispanique, on a beaucoup d'anciens guerrieros ici, on a une rue des guerrieros espagnols, donc on a souhaité cette année leur rendre hommage. Et je crois que c'est un spectacle qui va à la fois plaire au point de vue culturel, esthétique, mais aussi qui va interroger et qui va parler.
Toute l'édition 2016 de Charbon Ardent est placée sous le signe donc de la commémoration de la guerre d'Espagne et des réfugiés espagnols.
Voilà, et on le fait en lien aussi avec la situation actuelle, puisque la commune de la Grande Combe va accueillir dans quelques jours une famille de réfugiés syriens. Et donc on montre que finalement tout est lié et que quelles que soient les époques, cette ville continue à être solidaire.
Ce spectacle Passionaria, inspiré des chants républicains espagnols, a été créé par Gregorio Ibor Sanchez et Clara Tudela, tous deux enfants d'immigrés espagnols auxquels se joindront pour cette représentation du 3 décembre le pianiste de jazz Raphaël Lemonnier et la participation de deux chorales. Un spectacle présenté par ses auteurs, Gregorio Ibor Sanchez et Clara Tudela.
Ce spectacle, ça a vraiment été créé avec Joaquim Garcia et Anne-Marie Garcia, qui sont deux militants de la mémoire des guerrieros espagnols. Ça fait déjà une dizaine d'années que ce spectacle a été initié avec des petits moyens. Et là, il y a 3 semaines, on a fait une résidence avec le Théâtre de Nîmes pour le créer dans des vraies bonnes conditions. Donc avec Raphaël Lemonnier, pianiste, qui a fait des arrangements de jazz. On a invité également 2 musiciens additionnels, un metteur en scène, Marc Paquien, et une comédienne, Julie Pouillon. Et on est très content de cette création qu'on a faite.
Ça, c'est la version théâtrale, la version salle. Mais là, la version va être différente, ici, en plein air, au Puy Ricard.
Oui, alors on va prendre quelques extraits, on va dire, les plus populaires, les plus représentatifs. Et on va peut-être faire plus de musique que de texte au Puy Ricard. Mais même, on va quand même dire un texte ou deux. Et l'idée, c'est de se coller à l'histoire aussi de la Grande Combe avec ses guerrieros espagnols qui sont intimement liés à l'histoire des Cévennes.
Alors, les chants républicains, ces chants de la guerre d'Espagne qui continuent à être écoutés et entendus, portent beaucoup d'émotions en eux. Est-ce que ce sont des chants qui font encore sens aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des, par exemple, No Pasarán a été repris. La Quinta Brigada, c'est un chant qui continue à se chanter au fur et à mesure. Oui, bien sûr, il y a des tas de chants qui ont été même repris par des groupes actuels, au sein de concerts ou pour des clins d'œil comme ça.
C'est une période qui résonne, comme beaucoup de périodes de l'histoire, qui résonne encore aujourd'hui. Par exemple, les réfugiés espagnols qui sont rentrés en France, c'était 500 000 personnes en un mois. En 1939, en février 39. Donc voilà, bon, ça fait résonance, ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui, bien sûr.
Et outre la journée du 3 décembre, avec le spectacle en temps fort de cette édition 2016 de Charbon Ardent, plusieurs autres manifestations rendront hommage aux combattants républicains, notamment une exposition consacrée aux guerrieros espagnols et une soirée cinéma avec la projection du film de Ken Loach, Land and Freedom. C'était un sujet proposé par Yves de Fago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ce vendredi débute la 20e édition du Salon des artisans créateurs à l'Odève, un salon qui se déroule jusqu'à dimanche à l'espace Luteva. Hélène Durand, animatrice du commerce et de l'artisanat à l'intercommunalité Lodévois et Larzac, présente la manifestation aux côtés de l'élu en charge du commerce, Sonia Arazat.
Ce sont toujours à peu près les mêmes thématiques avec beaucoup de demandes, beaucoup de dossiers candidatures, dont tout ce qui est bijoux et céramique notamment. Donc les membres du comité de sélection font en sorte effectivement de trouver un certain équilibre entre chacune des thématiques. Ce sont principalement les professionnels, les métiers d'art hein, qui, de par leurs compétences et leurs avisés sur la technique de réalisation, qui sont prépondérants dans le choix des artisans. Et effectivement, l'idée, c'est d'essayer de veiller à la diversité des produits, des productions présentées, de veiller à un certain équilibre au niveau des prix également, pour que chacun puisse repartir avec un petit paquet, un petit cadeau en fonction de ses possibilités financières, et d'essayer également, du fait de cette diversité de candidatures que l'on avait cette année, de montrer des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. Donc,
il y a des gens qui reviennent, et puis il y aura toujours des nouveautés, il y a un roulement aussi qui s'effectue.
Il y a un roulement qui s'effectue, il y a un règlement qui gère la sélection, on va dire, des artisans pour le salon. Les artisans qui avaient exposé l'année dernière, s'ils le souhaitaient, pouvaient candidater à nouveau et étaient sélectionnés d'office. Il y en a à peu près 24 qui ont candidaté à nouveau. Et donc, on a un peu moins d'une trentaine, de nouveaux artisans qui, pour certains, viennent de loin et qui nous feront des propositions assez étonnantes, tant d'un point de vue artistique que d'un point de vue technique.
Voilà, on a des artisans, oui.
Des salons nationalement connus, comme au Barthes, comme on imagine, Grenoble, enfin, ils ont vraiment envie de venir sur ce salon parce que le bouche à oreille a bien fonctionné. Et donc, ils sont très intéressés de venir à l'Odève.
Un salon qui connaît un véritable succès chez les artisans créateurs, comme l'explique la présidente de l'Office de commerce, de l'artisanat et de l'agriculture, Michel Ferry, avec l'élu Sonia Arazat.
C'était convivial, c'était bien organisé. Le prix d'entrée était attractif.
Et puis ce que disait Sonia Arazat, effectivement, en plus, ils ont vendu.
2 euros. Les produits proposés étaient accessibles à tous, bien sûr avec beaucoup de diversité, mais des produits dont le prix était accessible. Donc, de mémoire, certains nous ont dit en avoir entendu parler sur les salons de Toulouse, de Grenoble, de Valence. Donc, vraiment, ce salon a une aura nationale.
Voilà, avec des gens qui viennent, on l'a dit aussi, de très très loin, et puis des gens qui sont aussi sur le secteur, ou pas loin de l'Hérault, du département, qui sont là.
Oui,
y compris de l'Odève peut-être, et du Lodévois-Larzac.
De l'Odève, de la communauté de communes, des trois communautés de communes environnantes, mais beaucoup, un certain nombre bien sûr, mais ils n'hésitent pas à venir de loin, parce que le chiffre d'affaires réalisé l'année dernière pour certains était très significatif sur un salon qui dure 2 jours et demi, et donc ils n'hésitent pas à faire le déplacement de très très loin.
Et sur ces 3 jours, on y retrouve donc des stands, des démonstrations, des ateliers adultes et enfants pour une entrée fixée à 2 euros. Voilà, c'est tout pour ce carnet de région. La semaine prochaine, c'est Radio Escapade qui prendra la rédaction en chef du carnet de région.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.